Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 15e de notre saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude, bonjour Michel, bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, Michel Puy, vous êtes notre invité, à la fois en tant que maire de Leucate, en tant que conseiller régional d'opposition, mais vous battez le terrain aujourd'hui pour d'autres raisons, et vous allez nous l'expliquer tout
les
à l'heure.
Les élections législatives du mois de juin prochain. Voilà. Et la présidentielle, bien sûr,
du mois d'avril. Avec des primaires que vous avez suivies et organisées dans le département, et vous aviez déjà d'ailleurs évoqué ces choses-là à ce même micro, Michel Puy. Donc on va y revenir tout ça en détail dans une troisième partie.
Volontiers.
Auparavant, dans les deux premières, Michel nous a concocté ses contre-regards hebdomadaires avec au menu, je cite, Bascou et Andrieux se ramassent une pelle à la primaire PS. Après quoi, tu as vu, paraît-il, Michel, Madame Delga en lévitation. Tu vas nous expliquer quels sont ces phénomènes qui provoquent ces étrangetés. Voilà. Ensuite, dans une deuxième partie, César se rebiffe. Ça, c'est nouveau Narbonne. Hein, c'est pas Rome. Enfin, c'est la première fille de Rome, paraît-il. Selon la formule historique que les Narbonnais connaissent. Et nous terminerons par ce que tu nommes les insupportables et coûteux dysfonctionnements Narbonne, Grand Narbonne, c'est-à-dire les relations que tu juges exécrables, et tu n'es sans doute pas le seul d'ailleurs, entre la ville de Narbonne, la municipalité, et la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Et ça, c'est un feuilleton. J'espère que nos auditeurs ne s'en lassent pas, parce que ça revient sur la sellette continuellement.
Hélas.
Alors, pour commencer, Bascou Andrieux soutenait M. Payon à la primaire.
Oui. Et Vincent Payon, avec ses supporters locaux, comme tu le notais en fait en présentant ses chroniques, s'est pris, Vincent Payon, une belle pelle dans notre département. Et avec lui, donc, Bascou et... Alors Jacques Bascou, soyons corrects, et Éric Andrieux, avec, bien entendu, Vincent Payon a fait 6,11%, je crois, juste devant Pinel, qui, elle, s'est élevée jusqu'à 3,6%, ce qui est une performance radicale dans ce département où le parti n'existait pratiquement pas il y a quelque temps.
Exact. Il y a eu quelques scores assez surprenants.
Cela dit quand même, si on compare le score de Payon à Mme Pinel, il faut avouer que c'est humiliant pour nos deux éléphantaux au doigt que sont Éric Andrieux et Jacques Bascou tout de même.
Les deux occupant encore aujourd'hui des positions importantes.
Oui, ce ne sont pas des seconds couteaux dans ce département, le rappeler quand même. Hein. Le premier, Jacques Bascou, est président du Grand Narbonne, il a siégé à l'Assemblée nationale, il a géré la ville de Narbonne, alors que le second, lui, qui faisait la pluie et le beau temps quand il dirigeait la fédération départementale socialiste de ce département, est désormais assis dans un fauteuil de parlementaire européen, bien lointain, certes, sous un ciel plus gris, certes aussi, mais beaucoup moins capricieux le ciel, et le fauteuil beaucoup plus confortable.
C'est à Strasbourg et à Bruxelles. Et à Bruxelles.
Alors, faut dire que leur campagne d'image en faveur de leur champion fut, en tout cas pour Jacques Bascou, quasi subliminale. Je les écris comme d'habitude. Et dans le style, je pointe mon nez sous la couette au dernier moment, je consulte la rose des vents interne au PS, bien sûr, je médite et arbitre entre mes amitiés, mes convictions, mes intérêts, et je finis dans un bac à sable, en l'espèce, celui dans lequel se trouvent aussi Vincent Payon et Éric Andrieux. Alors, ironie du sort d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Claude, quelques heures avant la fin de ce premier tour, il avait improvisé avec Éric Andrieux une conférence de presse au café de La Poste. On peut en témoigner, puisque ce jour-là, quand on a pris l'info, nous étions ensemble et tu as reçu coup de fil qui t'informait effectivement d'aller y assister.
Ce qui est assez classique d'ailleurs, presse au café de La Poste.
Oui, pourquoi pas? Alors, rappelons quand même à nos auditeurs que dans ce lieu, on ne sert plus à boire. Premier point, non, mais c'est pour informer nos auditeurs.
Oui, mais
au cas où vous aurez envie aussi d'aller boire un café, oui, voter un pastis.
Mais on fait du spectacle, alors.
Oui. Par contre, tous les soirs, certains soirs, pardon, il y a sur scène de talentueux comiques.
Voilà.
Écrit, j'allais dire, fatal hasard pour nos deux, en fait, pour nos deux hommes politiques qui ont choisi ce lieu pour faire leur conférence de presse. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler ça, faire valoir quand même ce Café de la Poste et sa programmation et son sympathique patron, que le 22, le 23 et le 24 février, il y aura sur scène Evelyne Cervera et Cécile Lopez. Qui donneront elles aussi leur spectacle. Alors j'ouvre les guillemets, idem et pas pareil, 15 ans après. Tout un programme, Jean-Claude.
Voilà, bon.
Mais Michel, vous devriez savoir que du café-théâtre au café du commerce, il n'y a qu'un pas. Donc tenir une conférence de presse dans un café-théâtre, cela s'entend aussi.
Voilà,
effectivement. Mais comme disait l'expression antienne, le café de la Poste faisant foi.
Oui, faisant foi, effectivement. Et quand on en sort quelquefois, avec effectivement une belle cirrhose faite et, au foie.
Alors ensuite, Michel, Madame Delga, là, alors, sa
oui.
présidente. Socialiste aussi, mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, en lévitation.
Qu'elle a soutenu Valls, mais ce n'est pas mon sujet. En fait, en tout cas, le sujet de cette chronique, il se trouve que j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, dimanche dernier, une amie. Alors, pour ne pas lui causer d'ennui, je vais l'appeler Marie Popint. Et je sais qu'elle ne m'en voudra pas. Et elle préside, mais réellement, je parle sérieusement, elle préside un petit club sportif dans un discret patelin aux doigts. Les membres de son club n'encombrent guère des vestiaires, qui d'ailleurs n'existent pas. Inutile pour le sport pratiqué par ses ouailles.
Installation spartiate.
On chausse simplement des baskets à la maison pour aller taper dans une baballe. Et puis les baskets, bon, on s'en sert pour aller à la messe aussi, donc on peut très bien les mettre à la maison pour aller sur un terrain de tennis, un court de tennis. Et puis un jour, mon ami voit se pointer le facteur avec, dans sa main tendue comme une fourche, une missive de Madame Delga. Alors, le facteur, bon, éberlué, un événement historique, enfin, en tout cas épistolaire, pour se préposer de la Poste, et même pour mon amie Marie Popins, qui, éberluée, se voit reprocher par l'Occitanienne présidente de ne pas avoir auprès d'elle, selon la formule consacrée, demandé une demande de subvention.
Ah, ouais. Ça, c'est assez nouveau.
C'est un peu comme si mon percepteur m'engueulait pour ne pas lui avoir gentiment demandé le remboursement de ses prélèvements.
Ouais.
Un truc de fou.
Presque.
En Occitanie, ouais. Jean-Claude, il faut que nos auditeurs le sachent, on ne demande pas de subvention. C'est Carole Delga qui vous demande d'en demander.
Ben oui,
elle
est vexée de voir qu'on ne voulait pas de son fric, en quelque sorte.
Alors, mais viens, mon amie Marie Popins, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé son dossier qui était très très succinct, quoi. Et puis, paf, quelques jours après, elle a reçu 400 euros de subvention pour acheter des baskets et des babales. Carole Delga est présidente d'une grande région dont la réforme territoriale a décidé qu'elle serait une institution gérant des grands équipements structurants. Ça, quand même, laisse rêveur. On gère des grands équipements structurants.
À 400 euros.
À 400 euros pour un petit club sportif dans un patelin au doigt complètement perdu.
Et c'est ce que tu appelles de la lévitation.
Pas que ça. C'est pas fini. Alors, suivi cette information, 400 euros, d'une lettre de Madame Delga, la félicitant effectivement d'avoir obtenu cette grâce à sa majorité, consciente d'une état. Deux jours après, ce facteur le redistribue une nouvelle lettre d'un vice-président qui s'occupe de la mer, qui n'a rien à voir avec le sport, qui la félicite tout autant. Deux jours ensuite, une nouvelle lettre d'un président d'une commission qui n'est pas celle du sport, qui lui annonce qu'effectivement elle a reçu 400 euros grâce à son action, etc.
Donc,
elle attend maintenant effectivement celle du président de la commission des sports qui ne saurait tarder. Et ensuite, évidemment, celle de tous les élus de la majorité Manalega, qui du département, qui siège au conseil régional.
Oui, de l'opposition. Monsieur Pi n'a pas été sollicité, que je sache.
Bon, alors évidemment, le facteur, inutile de vous le dire, bon, a signalé à sa hiérarchie, en fait, cette rafale, en fait, de lettres, car il trouve ça un peu louche. Hein. Bon, c'est un trait d'humour que je fais là, mais enfin, quand même, quoi. Ça montre à quel point, dans quel monde nous vivons. Hein. Alors, le plus fort, c'est que le matin même, je lis dans la presse que Carole Delga était transportée, alors je demande aux auteurs de bien écouter, quoi, hein, c'est de l'anglais, enfin, avec l'accent narbonnais, hein,
oui,
par Hyperloop Transportation Technologie, écoutez, hein, qui veut, paraît-il, d'après Mme Delga, développer son concept de capsule, hein, limitant la vitesse du son dans un tube grâce à l'effet maglev, qui lui permettra, dit-elle, Mme Carole Delga, de faire le trajet Toulouse-Montpellier en 30 minutes. Hein. C'est pas belle, la vie. Alors, question posée à Mme Delga, mais combien ça coûte? Et sa réponse est merveilleuse. Hein. Un rêve. Ça n'a pas de prix. Ça ne se calcule pas. Dans merveilleuse Occitanie, présidée par une Carole Delga qui, visiblement, est dans un état de lévitation totale.
Voilà. Et pendant que les scientifiques qui nous écoutent ont dû prendre des notes et peuvent les relire, nous marquons une première pause.